Peur Henri Blocher, qui nous fait la joie et l'honneur d'être parmi nous pour ce long week-end. Je pense que nous sommes gâtés dans la région et nous le remercions d'avoir eu à cœur de venir nous rencontrer. Je pense qu'il a un fardeau sur son cœur, j'ai pu en parler avec Salah, pour cette région et notamment pour la population musulmane vers laquelle on a pu aller aussi hier après-midi. Donc merci au Seigneur, merci à vous frères. Le professeur Henri Blocher est professeur émérite de théologie systématique et de dogmatique à la faculté théologique évangélique de Vaux-sur-Seine. On pourrait dire tellement de choses sur le professeur Henri Blocher. Je rêvais d'un jour le rencontrer. J'ai lu des livres de vous, j'ai écouté énormément de prédications, d'enseignements vous concernant. Aujourd'hui, mon œil vous voit et je suis très heureux d'être avec vous. On a pu partager. Avec Salah, on s'était dit, il m'avait dit, le professeur Henri Blocher va venir. Je lui dis, ah oui, Salah. Et on était en train d'organiser. Et je dis, le samedi, après la formation, on va aller manger ensemble. Le professeur Henri Blocher veut aller manger un kebab. On va aller manger un kebab avec le professeur Henri Blocher, m'a dit Salah. J'ai dit, tu es sûr, Salah ? On est allé manger un kebab hier à Lunel. Et on a parlé du Seigneur, on a parlé théologie, on a parlé de l'œuvre de Dieu. Sans tarder, je vous laisse la place, frère. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse tous au travers de ce que vous allez nous partager.
Chers frères et sœurs, c'est pour moi un grand honneur et en même temps qu'une joie de vous apporter ce matin la parole de Dieu. C'est toujours un honneur que d'apporter la parole de Dieu, même si c'est à une seule personne, mais c'est une joie supplémentaire aujourd'hui de vous avoir rassemblés. Nous savons qu'il plaît à Dieu que ces enfants de plusieurs familles se réunissent, s'étant mis d'accord pour le prier ensemble. Et je me réjouis donc d'avoir une part au service que nous avons entamé il y a maintenant un moment. Je vous invite à écouter la parole de Dieu que nous allons méditer. Nous lisons ensemble dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 4, les 42 premiers versets. C'est un passage assez long, mais le texte est si beau que je pense que ce sera une joie supplémentaire que la lecture compte 42 versets du chapitre 4 de l'Évangile de Jean. Jésus, ayant su que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean-Baptiste, en fait, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples. Il quitta la Judée et retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il passe par la Samarie. La Galilée est au nord-ouest, la Judée au sud et la Samarie entre deux. Il arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Et Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source. C'était environ la sixième heure, c'est-à-dire en gros midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit, « Comment ? Toi qui es juif, peux-tu me demander à boire à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu Et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire » C'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Serais-tu toi plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser de l'eau. » « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Car tu as eu raison, Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » En cela, tu as dit vrai. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que toi tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni que vous, vous dites le lieu où il faut adorer, ni à Jérusalem. » Jésus, que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « C'est moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui s'étonnaient de le voir parler avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que cherches-tu ? De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa jarre, s'en alla dans la ville, et elle dit aux gens « Venez voir, il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Christ ?» Ils sortirent de la ville pour venir à lui. Pendant ce temps, les disciples disaient « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « Moi, j'ai à manger. » Une nourriture que vous, vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, vous, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. En cela, en effet, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a pas coûté, à vous, aucun travail. D'autres ont travaillé, et vous, vous êtes arrivés pour recueillir le fruit de leur travail. » Beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en lui. À cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils lui demandèrent de demeurer auprès d'eux. Et il demeura là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment le Sauveur du monde. Jusque-là, notre lecture. Comment ai-je été conduit à ce texte de l'Évangile de Jean pour notre méditation de ce matin? Vous le savez, depuis 3 jours, nous réfléchissons à la mission de témoignage que le Seigneur nous a confiée, et plus particulièrement au témoignage auprès de nos voisins musulmans. Le récit que nous venons de lire nous montre quel exemple Jésus, notre Seigneur lui-même, nous donne de témoignage. Comment il s'y prenait? Avec quels moyens et quels ressorts, semble-t-il? Or, je suggère que la catégorie qui, au premier siècle, correspondait le mieux à ce que sont pour nous les musulmans aujourd'hui, c'était la catégorie des Samaritains. Il y a des similitudes assez remarquables, des parallélismes qu'on peut établir. Les Samaritains étaient des monothéistes, ils n'étaient pas idolâtres comme l'étaient les Juifs. Les Samaritains avaient recueilli une partie de la révélation de l'Ancien Testament. Ils avaient ce qu'on appelle le Pentateuque samaritain, et donc ils révéraient une partie de ce que Dieu avait dit à Israël. Or, les musulmans, vous le savez, ont dans le Coran pas mal de contenu qui vient de la Bible. Peut-être pas d'une connaissance directe de la Bible, mais par le truchement de chrétiens, certains hérétiques de toute la péninsule arabique qu'avait rencontré Mahomet. Et la Bible est présente, en partie, et de façon mélangée, nous y reviendrons, mais dans le Coran. Donc il y a cette similitude qui vaut aussi. Et puis, nous l'avons lu, les Juifs ne voulaient avoir aucun rapport avec les Samaritains. Il y avait une hostilité, qu'on pourrait dire bétonnée par les siècles, entre les Juifs et les Samaritains. Or, s'il y a suspicion mutuelle, s'il y a peur réciproque, aujourd'hui, entre deux communautés, c'est sans doute entre les chrétiens évangéliques et les musulmans. Nous le savons bien. Nous en avons déjà parlé lors de ces 3 jours. Donc, vous le voyez, il y a, non pas une identité entière, bien sûr, mais des correspondances fort intéressantes qui rendent l'exemple du témoignage que Jésus a rendu particulièrement pertinent pour nous. J'ajoute que ce qui est pertinent pour le témoignage auprès du musulman l'est aussi, de manière analogique, pour le témoignage auprès de tous ceux que nous rencontrons et auprès de qui le Seigneur nous envoie. Les musulmans sont d'abord des hommes et des femmes créés en image de Dieu et qui ont besoin du salut en Jésus-Christ. Ce que nous allons souligner en pensant plus spécialement aux musulmans vaut aussi beaucoup plus largement. Alors, je résume les éléments que je vais développer en quelques points, comme ça vous verrez à quelle vitesse nous progressons. Nous pouvons, me semble-t-il, discerner d'abord l'exemple de Jésus dans sa capacité à nouer un lien avec la personne qui est son interlocutrice en l'occurrence. Ensuite, nous voyons comment il réveille le désir d'une réalité cachée. Comment ensuite il porte l'épée de la parole de Dieu jusqu'au cœur. Comment il répond à la question, en quelque sorte théologique, doctrinale, que pose la femme. Et puis, finalement, comment il accompagne la multiplication de la vie. Voilà les éléments que nous allons considérer ensemble. D'abord, nouer un lien relationnel, personnel. C'est Jésus qui déclenche toute l'histoire par une question qui peut nous paraître anodine. Donne-moi à boire. Jésus n'a pas de seau, il a soif, le puits est là. Jésus prend l'initiative de cette relation et en se mettant en quelque sorte dans une position d'infériorité, en demandant un service. Mais il fait par là beaucoup plus encore que demander un service. Il montre une liberté extraordinaire par rapport à toutes les habitudes du temps, par rapport au tabou même qui régissait les relations de l'époque. Il parle, lui, avec une personne samaritaine. Et les Juifs les considèrent comme impurs. C'est vrai pour tout Samaritain, et c'est vrai encore plus pour toute Samaritaine, étant donné une certaine optique sur la féminité de l'époque. Donc, Jésus, là, montre une liberté extraordinaire. Et je pense que c'est un exemple pour nous, à l'égard de nos voisins musulmans. Il y a des préventions, et il y a des sentiments, oh là là, ils sont dangereux, qui doivent être surmontés avec l'aide du Seigneur. Jésus a établi ce lien déjà, et je pense qu'il est bon d'établir un lien avant d'aller plus loin. C'est aussi un point qui a été évoqué, mais même si le Seigneur peut se servir parfois d'une démarche trop abrupte en général. Et très vite, il en profite pour réveiller le sentiment qu'il y a une réalité cachée dont cette femme a secrètement besoin. Elle ne peut pas encore comprendre ce que Jésus lui dit, mais Jésus joue des résonances d'un symbole qui est fréquent dans la Bible et qui est fréquent dans beaucoup de religions d'ailleurs, celui de l'eau. L'eau représentant clairement une réalité qui n'est pas celle d'H2O, du produit que nous définissons chimiquement, du produit physique. Il s'agit d'une eau qui jaillit à l'intérieur de la personne. L'eau que je lui donnerai jaillira et en vie éternelle. Si quelqu'un choisissait la voie d'un littéralisme bête, ces paroles de Jésus devraient tout de suite le remettre sur le chemin du sens véritable. L'eau dont tous les humains, en réprimant le sentiment de cette soif, mais dont tous les hommes ont secrètement soif au fond d'eux-mêmes. Cette eau, c'est vraiment le don de Dieu, comme là Jésus l'appelle. Et il y a quelques lignes du grand poète catholique, Paul Claudel, qui évoque cette eau d'une manière qui me touche de telle sorte que je veux vous faire part de cette citation. Elle est tellement belle pour moi, en tout cas, que je lui pardonne tous ses propos anti-protestants, car il était très, très véhémentement anti-protestant. Il évoque les réactions des gens, et puis voilà ce qu'il dit, voici ce qu'il dit. Ils disent qu'ils n'ont pas soif. Ils disent que ce n'est pas une source. Ils disent que ce n'est pas de l'eau. Ils disent que ce n'est pas l'idée qu'eux-mêmes se font d'une source et de l'eau. Ils disent que l'eau n'existe pas. Quant à nous, nous ne savons autre chose, sinon qu'elle donne la vie et que nul ne peut vivre sans elle. Et oui, c'est cette eau-là que le Seigneur Jésus donne et qui jaillit en vie éternelle dans le cœur de ceux qui la reçoivent. Et elle est liée à la personne même de Jésus. Il le dit, si tu connaissais le nom de Dieu, et qui est celui qui te parle? C'est en recevant Jésus lui-même que nous laissons cette eau venir nettoyer et étancher les soifs au fond de nous et devenir comme un jaillissement permanent qui fait que les soifs de la sécheresse de ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est fini. Celui qui reçoit cette eau, qui boit de cette eau, n'aura plus jamais soif. C'est le don définitif de la vie éternelle. Mais il y a des conditions pour la recevoir. Et Jésus porte l'exigence de sa parole comme une épée jusqu'au cœur. La femme, qui sans doute adopte un style de plaisanterie, mais qui a déjà compris quand même, elle est très fine, quand même qu'il s'agit d'autre chose. Elle dit, oh ben, donne-moi toujours cette eau, je n'ai plus besoin de venir puiser ici. Et Jésus, alors, va chercher ton mari et reviens ici. Jésus porte la parole là jusqu'au cœur, jusqu'au problème non seulement social, mais le problème spirituel de cette femme. Et ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. C'est le péché, rien d'autre que le péché. Tout le message de la Bible. Et il faut traiter la question du péché. Jésus n'hésite pas à porter ce coup, en quelque sorte, qui est peut-être douloureux pour la femme. Elle se rétracte. Hein. Je n'ai pas de mari. Jusqu'en son cœur. Jésus veut ainsi agir aussi dans notre vie. S'il y a du péché, Jésus veut d'abord régler ce problème avant de bénir et de permettre que les soifs les plus intimes soient vraiment étanchées. Et puis, une fois qu'il a porté ainsi ce coup spirituellement décisif, il répond honnêtement à la question que la femme pose, peut-être comme un mécanisme de défense, peut-être comme une stratégie d'évitement. Ah là, tu es prophète ? Ah bien voilà, il y a une question théologique qui divise les théologiens juifs et samaritains depuis des siècles. Qu'en dis-tu ? Nous disons que c'est sur le mont Garizim, et vous dites que c'est à Jérusalem, alors... Et je suis très frappé par le fait que Jésus ne la rabroue pas à ce moment-là. Ne dit pas, c'est pas la question... va chercher ton mari, ou plutôt celui, règle ce problème dans ta vie, c'est ça ce qu'il faut faire maintenant. Non, Jésus répond honnêtement à la question qui est posée par cette femme dans sa réplique. Et il me semble qu'avec les musulmans, il y a aussi des questions théologiques pendantes, et que nous avons un devoir de réponse. Que cela... même si c'est par esquive qu'ils élèvent une objection, doit être traité selon la droiture, être traité honnêtement aussi. Alors, ce qu'on peut admirer, et c'est évidemment, nous ne sommes pas Jésus, c'est la manière tellement inventive, tellement créative, comme on dit, dont il apporte la réponse. Il traite la question, mais en renouvelant radicalement les perspectives qui pouvaient être celles de cette femme, de tous les Samaritains et de tous les Juifs de son temps. Il ne fait pas de compromis, hein. Pas de démagogie. Oui, le salut vient des Juifs. Vous ne connaissez pas celui que vous adorez. Mais l'heure vient, c'est maintenant où cette vieille dispute se périme en quelque sorte, devient obsolète, et maintenant il s'agit d'accueillir la réalité, esprit et vérité. Sans doute la vérité de ce qui n'était qu'image dans l'Ancien Testament, cette représentation de l'eau, la vérité de ce qu'on appelle techniquement l'antitype dans le Nouveau Testament, et qui est la réalité spirituelle, au lieu de ces lieux géographiques divers, et qui correspondent donc au plan de la réalité charnelle, externe. Voilà maintenant l'âge de l'esprit qui s'inaugure, et il s'agit d'adorer le Père en esprit et en vérité. Vous voyez comment Jésus sait renouveler la vision, sait ouvrir en apportant la dose de la nouveauté. Alors nous ne sommes pas Jésus pour avoir une capacité si extraordinaire de renouvellement de la vision, mais nous pouvons lui demander une participation, peut-être même sans en être conscient, dans la conversation. Nous pouvons le prier tout spécialement qu'il nous donne. Dans nos rapports avec les musulmans, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment très très nécessaire dans le dialogue avec les musulmans, que cette capacité de changer les perspectives fondamentales. Il faut que le Seigneur nous inspire. Mais il a promis de le faire. Et nous pouvons compter sur son soutien dans le témoignage. Jésus, là, montre magnifiquement ce qui est rendu possible par le don de son esprit. Et ce que Jésus opère à ce moment-là, il l'opère d'une manière qui va toucher non pas seulement cette femme, mais ensuite une foule, une bonne partie de la population de ce village, sans doute comme ce bourg de Sichar. Alors la première chose que je remarque à propos de l'accompagnement de la vie nouvelle qu'il a fait éclore en cette femme, c'est qu'il la laisse partir. Il a aussi, je dirais, cette audace. Il aurait pu avoir peur que, si elle repartait tout de suite, elle change d'idée finalement, et qu'elle retombe dans ses vieilles ornières, qu'elle se laisse reprendre par son passé. Mais il la laisse partir, il prend le risque. Et de nouveau, je pense que dans nos rapports avec nos voisins musulmans, c'est quelque chose qui peut réellement nous être exemplaire. Et puis ensuite, Jésus, pour accompagner donc cette vie nouvelle qui commence à rayonner à partir de cette femme, il change ses plans, avec quand même son ministère très chargé, hein, il y avait des foules, etc., qui le réclamaient. Il passe 2 jours dans ce gros village, alors que ce n'était pas son plan initial. Jésus accepte aussi de modifier son plan, comme il le fait. Et puis alors, il fait un commentaire à l'intention de ses disciples, ceux qu'il a réunis comme ceux qu'il forme pour le témoignage. Il fait un double commentaire qui peut nous paraître assez énigmatique et qui, je crois, de nouveau, est très intéressant pour nous à considérer. Le premier commentaire qu'il fait concerne la moisson qui représente ce qu'il vient de commencer avec cette femme. C'est une moisson qui commence quand une âme se tourne vers Dieu et reçoit l'eau de la vie éternelle. Donc, Jésus dit, vous dites il y a 4 mois encore jusqu'à la moisson. Ils étaient donc probablement en décembre. Mais voilà, spirituellement, parce qu'il est comme tout le long de ce récit, il passe du plan de l'image physique à la réalité spirituelle. Mais levez les yeux, spirituellement. Les champs sont blancs pour la moisson, c'est le moment. La moisson commence. Et je pense que cela aussi s'applique à notre relation, à nos voisins musulmans. Nous disons, oh, ils sont tellement durs à convaincre, l'évangélisation a tellement peu de fruits auprès des musulmans, et tous nos contemporains, ils sont plus réfractaires que jamais. Et Jésus nous dit, les champs sont blancs pour la moisson. Dieu a préparé les choses. Sachez que Dieu a un plan de bénédiction large, un plan de bénédiction abondante qu'il veut réaliser. Il nous encourage ainsi si profondément. Et puis son deuxième commentaire est bien plus énigmatique, au point que les commentateurs ne sont pas d'accord de très loin. Jésus dit, d'autres ont travaillé, ils ont semé, et vous, vous entrez dans leur travail. Sans avoir fait ce travail de semaille, vous, vous commencez à moissonner. Il dit ça à ses disciples. À quoi fait-il référence ? De quoi parle-t-il à cet endroit ? Et pratiquement tous les commentateurs récents que j'ai lus sur ce point, alors je n'ai pas lu tous, hein, mais tous ceux que j'avais à disposition, disent que ce doit être Jésus lui-même, Jean-Baptiste, qui ont semé, et de telle sorte que les apôtres vont, ses disciples proches, vont moissonner ce qui correspond au semail de Jésus. Mais ça ne joue pas vraiment, parce que Jésus et Jean-Baptiste n'ont pas prêché aux Samaritains. Ils n'ont pas semé parmi les Samaritains. Et pourquoi cette insistance sur la différence ? Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Pourquoi cela, si c'est ça l'interprétation ? C'est l'interprétation la plus courante, hein, aujourd'hui, mais moi, elle ne me satisfait pas. Alors, en fait, chez les pères de l'Église, déjà chez Irénée, en particulier Saint Irénée, l'évêque de Lyon, il y a une autre orientation, et puis elle arrive à pleine clarté, chez qui ? Excusez du peu, c'est chez Jean Calvin. Chez Jean Calvin, dans son commentaire, nous avons une autre interprétation, audacieuse, mais qui me semble bien préférable. Il a bien vu la difficulté de l'autre, il a dit, mais ce sont des Samaritains. Certains ont parlé des prophètes envoyés à Israël. Oui, ils ont peut-être touché les Samaritains quand même, bien qu'ils n'aient pas reçu le canon des prophètes de l'Ancien Testament, quand même, Jésus souligne si fort chez les Samaritains, d'autres ont travaillé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, Calvin dit, c'est que Jésus reconnaît, alors je le cite, il loue les Samaritains, il loue chez les Samaritains la semence de la doctrine des prophètes, bien qu'elle fût mêlée et brouillée de beaucoup d'ivraies, c'est-à-dire de corruption. Et oui, il faut penser que là, Jésus indique qu'il y a eu, dans l'histoire des Samaritains, avant le Nouveau Testament, où l'Évangile leur est annoncé de telle sorte qu'il y a moisson d'âme, il y a eu déjà des semences que Dieu a pourvues jusque chez les Samaritains. Il dit bien qu'entre eux, toutes choses fussent infectées de corruption, toutefois, il y avait encore quelques semences de piété cachées. Voilà les termes, vous les lis donc, du commentaire de Calvin. Je pense qu'il a raison, que malgré toutes les corruptions de la religion des Samaritains, il y avait des éléments qui préparaient l'œuvre de la moisson de l'Évangile au moment que Jésus désigne. Est-ce que nous avons la possibilité de dire la même chose pour les musulmans ? Il me semble que nous pouvons avoir cette audace et que nous pouvons dire que malgré toutes les corruptions qui s'y sont mêlées, comme dit Calvin, il y a aussi dans la religion des musulmans des éléments d'origine finalement biblique qui viennent en quelque sorte à fruition, à accomplissement lorsqu'ils se tournent vers Jésus comme le sauveur du monde. Alors il est sûr que quand il y a mélange d'éléments de vérité, en un sens, c'est plus dangereux. et c'était le cas aussi sans doute pour la religion des Samaritains, quand il y a des semences de vérité, il peut y avoir un attrait qui est trompeur, qui fait gober des mensonges très graves. Mais il y a aussi une préparation que le Seigneur opère pour le moment où il fera accueillir sa parole par ces êtres humains. Et il me semble qu'il y a cette perspective aussi que nous pouvons admettre en ce qui concerne l'islam. Et jamais une voie de salut, hein, je ne dis pas ça, mais déjà des choses qui viennent à accomplissement. J'ai mentionné dans nos précédentes rencontres que le mot islam veut dire abandon à Dieu, soumission, mais dans le sens de l'abandon à Dieu. Il y a cela avec une certaine crainte de Dieu qui se manifeste et qui vient en quelque sorte à pleine vérité, esprit et vérité, dans leur décision de s'en remettre à Jésus, dont ils ont une image déformée, mais pas entièrement fausse, hein, vous le savez, par exemple, qu'ils reconnaissent la naissance virginale de Jésus, comme tant de libéraux protestants refusent de le faire. Vous voyez, donc, il y a des éléments qui peuvent venir à fruition dans l'islam même, et cela peut nous encourager. Dieu a préparé les choses pour que la moisson qui est dès maintenant inaugurée, que la moisson s'étende et que beaucoup reconnaissent qu'il est le sauveur du monde. Voilà les perspectives qui sont, me semble-t-il, ouvertes devant nous par le passage que nous avons lu et que nous pouvons appliquer à notre situation présente. Que le Seigneur nous encourage tous à suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus lui-même. Amen.
Merci, Monsieur Blocher. Nous cheminons vers la fin de ce culte et je voudrais appeler nos pasteurs, donc Xavier, David, Jean, à me rejoindre pour vivre le temps de l'intercession. Si vous voulez aller plus loin dans la réflexion que nous a apporté la prédication du professeur Henri Blocher, je vous invite à nous rejoindre à 14h, juste après le repas fraternel, ici même, pour un temps de conférence, pas débat, parce qu'ils sont tous les deux d'accord, conférence à deux voix, mais quelque part une voix de terrain avec le travail et le ministère de Stala, et une voix théologique aussi d'études à travers la carrière académique de M. Blocher cet après-midi, sur comment rendre plus mature nos relations avec nos voisins musulmans. Je vous invite maintenant, puisque nous sommes le peuple de Dieu, puisque nous sommes un royaume de prêtresses et de prêtres consacrés pour lui, de jouer notre rôle. Et nous avons l'habitude dans cette église d'avoir un temps d'intercession. Et nous allons prier, chacun successivement, pour nos communautés, pour nos cités, pour notre pays et puis pour ce monde. Et après ça, je laisserai à M. Blocher de nous envoyer dans l'exhortation et de nous apporter la bénédiction finale de la part du Seigneur. Et nous chanterons un dernier cantique. Prions. Seigneur, ça a été une joie et un plaisir, et ça a été vraiment un temps pour moi renouvelant de vivre ce culte en commun, d'entendre toutes ces voix chanter avec force, avec conviction, de voir, Seigneur, toutes ces sensibilités se tisser les unes par rapport aux autres pour le temps d'un culte fondé sur ta vérité, fondé sur ton œuvre, Seigneur. Je veux te demander de bénir chacune des communautés qui sont présentes ce matin, de bénir dans chaque lieu et aussi la communauté pentecôtiste de Lunel. Je n'ai pas vu Ruiz ce matin, je ne sais pas s'il y a des membres qui sont présents, mais elle fait partie de cette pastorale. Bénis chacune des communautés dans leur relation fraternelle, Seigneur. Amène les uns les autres à tisser des liens. toujours plus vivant, profond, sincère. Seigneur, que les chrétiens chrétiennes de chaque église trouvent en toi et auprès des autres toutes les raisons de tomber le masque du dimanche matin afin de vivre des rencontres fraternelles fécondes. Je te remets chacun des groupes responsables, conseil d'anciens, conseil d'église, équipe pastorale, selon l'organisation de chaque communauté, afin que tu renouvelles ton onction, ta vocation, et que tu mettes ta main protectrice sur les ministres et sur les responsables d'église. Seigneur, qu'aucun d'entre eux ne s'élève au-dessus des autres, mais qu'à ton image, nous restions tous des serviteurs avant toute chose du peuple. Et que, Seigneur, les fidèles des églises puissent être proches et attentifs aussi aux soucis de leurs responsables et de leurs dirigeants, parce que qu'ils ne laissent pas s'isoler dans le coin, mais qu'il y ait des relations, Seigneur, entre tous qui soient fécondes et nourries. Amen.
Seigneur, nous te prions aussi pour chacune de nos cités, nos villes, de nos villages que nous représentons ici. Et Seigneur, dans l'optique de ce que nous vivons ce week-end, plus particulièrement eh bien, pour notre témoignage auprès de la population musulmane, et Seigneur, renouvelle, je te prie, l'amour que tu as déposé dans nos cœurs, l'amour qui vient de toi, qui vient de ton esprit. Et Seigneur, nous voulons eh bien, avoir les yeux ouverts comme toi, tu le fais. Être remplis d'amour, de compassion, et peut-être que nous disons que nous n'avons pas les mots, et pourtant toi, tu es là. Et Seigneur, nous voulons simplement te faire confiance, répondre et aller, Seigneur, avec cette force que tu nous donnes, que tu nous renouvelles et déposes en chacun de nous. Nous te glorifions et te bénissons. Dans le nom de Jésus. Amen.
Seigneur, nous te prions pour notre pays de France que nous aimons. Seigneur, pour tous les enjeux qui pèsent sur lui. Te prions pour ceux qui nous gouvernent dans les plus hautes fonctions et les fonctions les plus locales, afin que tu puisses les inspirer et les conduire dans les décisions qu'ils ont à prendre. Nous savons tous les enjeux spirituels qui pèsent sur notre pays. Et que certaines décisions ont pu plus que te déplaire, Seigneur. Nous intercédons pour un pardon pour notre pays, Seigneur, et pour que ta grâce demeure sur nous, sur ton Église et ton peuple, afin qu'il continue de répandre ta parole dans tous les quartiers, dans toutes les maisons, dans les endroits les plus reculés, dans les endroits où il y a la forte densité de population. Donne-nous à être pertinents, conduit par ton esprit, imprégné par ta parole, afin que le message de l'Évangile résonne encore dans les cœurs et dans les vies de tous les habitants de ce beau pays de France. À toi toute la gloire, Jésus. Amen.
Notre Père, nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin, pour les vérités que nous avons entendues, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous te rendons grâce parce que nous sommes les témoins de cet amour. Merci pour la joie du salut. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, nous te prions de susciter cette soif envers ces peuples, envers ces personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur, et que nous devons, nous aussi, en tant que témoins, Seigneur, rendre ce témoignage autour de nous, Seigneur, dans les occasions que tu nous présentes, Seigneur, à l'exemple de cette Samaritaine, accorde-nous cette grâce, accorde-nous ces paroles, ce témoignage, Seigneur, efficace, afin, Seigneur, que le salut parvienne aussi à ceux qui ne te connaissent pas. Merci pour toutes choses, merci pour tes vérités, merci pour le privilège que nous avons de t'appartenir. À ton nom soit toute la gloire et l'honneur, au nom de ton Fils bien-aimé. Amen.
J'ajoute d'abord un mot. Je ne serais pas surpris qu'il y ait parmi nous quelqu'un à qui le Seigneur dit « C'est moi, moi qui te parle. » Et recevons maintenant l'exhortation de la part du Seigneur. Vous serez mes témoins à partir de Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance du fait que l'Esprit viendra sur vous et vous donnera la capacité d'accomplir cette mission pour sa gloire et le salut d'un grand nombre, car il est le Sauveur du monde. Élevons-nous pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. La grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen.
Bon, ben, ça a été le chant final. Je vous souhaite un bon dimanche à ceux qui doivent partir, un bon appétit à ceux qui restent, et je vous rappelle tous la conférence à 14h. Merci.